son d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est un livre qui défraie la chronique en Pologne et peut-être bientôt en France. Entre série Z et critique sociale, La nuit des Juifs vivants, le très sulfureux roman d'Igor Ostarowicz vient de paraître en français. Et ce n'est pas du goût de l'actuel gouvernement polonais qui rechigne à regarder le passé du pays durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune auteur était de passage à Paris. Maja Szymanowska est allée le rencontrer ainsi que ses éditeurs.
Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, en bas d'un immeuble haussmannien qui abrite les éditions de l'Antilope. Igor Ostarowicz, le jeune écrivain polonais, pousse le portail. Il arrive en direct de Varsovie pour la promotion de son livre « La nuit des Juifs vivants », un roman que les autorités polonaises actuelles ont préféré ne pas soutenir. L'éditrice Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier accueillent leur nouvel auteur.
Nous avons invité Igor Ostarowicz à venir présenter le livre ici en France. Et l'Institut polonais a choisi de ne pas nous aider, contrairement à ce qu'il avait dit quelques mois plus tôt.
À propos du fait qu'il y a eu un revirement dans l'Institut polonais, à propos de participer à la venue en France de Igor Ostarowicz, on s'est posé deux questions. Est-ce que c'est parce que Igor Ostarowicz a été un proche conseiller du précédent Premier ministre, Donald Tusk, qui est donc d'un courant politique beaucoup plus libéral que le gouvernement actuel, ou est-ce que effectivement un livre qui interroge la Pologne sur sa mémoire juive, est-ce que c'est ça qui dérange le gouvernement?
La réponse d'Igor Ostarowicz se veut mesurée.
Je ne suis pas le chouchou des autorités actuelles, mais je ne suis pas non plus victime de répression. Ce qui s'est passé avec la promotion de mon livre en France est triste et pas très intelligent, mais je n'y peux rien. D'autres choses bien pires arrivent actuellement en Pologne. Il faut patienter et attendre que ça passe. Je pense que la réaction de l'Institut polonais était liée plus à mon passé politique et moins au contenu de mon roman.
Igor Ostarowicz a en effet été nommé en 2007 secrétaire d'État par le Premier ministre Donald Tusk et a travaillé étroitement avec ce dernier durant 7 ans. Pendant cette période, Donald Tusk est devenu la bête noire des conservateurs aujourd'hui au pouvoir. Igor Ostarowicz n'est pas le seul artiste à être mis à l'index pour ses amitiés politiques. Même le grand Andrzej Wajda, à la fin de sa vie, n'était plus en odeur de sainteté auprès des autorités à cause de son lien avec Lech Walesa. La réalisatrice Agnieszka Holland, très engagée contre le nouveau pouvoir, est carrément mise à l'index. Difficile désormais pour elle d'obtenir des subventions du CNC polonais, les instituts polonais à l'étranger ont reçu l'ordre de ne pas promouvoir son cinéma. Mais au-delà du passé politique d'Igor Ostarowicz, son roman « La nuit des Juifs vivants » a été très controversé. Le titre annonce la couleur. Gilles Rosier.
Quand je l'ai lu, je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que ce livre ?» Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais comment aurait-on pu aborder le sujet autrement ?» C'est-à-dire que c'est un livre provocateur, dans un style très pop culture, il y a du sexe, il y a du sang, les zombies, mais les zombies c'est toujours un prétexte pour parler d'autre chose, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière la question du fantôme, du zombie qui ressort des caves, etc. Et c'est précisément le cas de ce livre.
La question la plus souvent posée à Igor Ostarowicz est celle de son origine, pour expliquer pourquoi il s'est attaqué aux relations entre Polonais et Juifs, qui provoquent toujours des discussions enflammées en Pologne.
Je n'ai pas d'origine juive. Ce n'est pas une question d'identité, selon moi, mais de lieu. Quand on habite sur une telle scène de crime, au-dessus d'un tel charnier, on ne peut pas juste rentrer tous les jours à la maison et prétendre qu'il ne s'est rien passé ici, que cela ne nous concerne pas. Je pense qu'il faut d'abord se confronter à ces questions avant de pouvoir passer à autre chose.
N'en déplaise au nouveau pouvoir qui aime réécrire le passé en voulant gommer les pages sombres de l'histoire de la Pologne, surtout en ce qui concerne les Juifs polonais. Igor Ostarowicz attaque de front la question de l'antisémitisme.
Dans les années 90, les propos antisémites étaient monnaie courante et l'antisémitisme était présent dans le débat public. Aujourd'hui, c'est impensable et on doit s'en féliciter, c'est un progrès. Mais en même temps, le sujet a disparu du débat sans que nous ayons pu travailler cette question. L'antisémitisme polonais est une expression malheureusement banale. Ce n'est pas innocent, il faut qu'on se confronte à cela.
przepracowany.
Suscitant le débat dans son propre pays, le roman irrévérencieux d'Igor Ostachowicz a de quoi aussi provoquer des remous en France, tant il va à l'encontre des idées reçues.
Il y a toutes sortes de clichés sur la Pologne qui, moi, m'ont toujours beaucoup choqué. Les Juifs d'origine polonaise en France et les Français en général sont persuadés que les Polonais ont participé activement à l'extermination des Juifs. Il y en a qui l'ont fait, mais il serait faux, et j'en suis persuadé, de dire que, comme un seul homme, la population polonaise s'est levée pour se débarrasser de ses Juifs. Et on a envie de revenir là-dessus et de montrer effectivement que dans la génération contemporaine, il y a des écrivains qui interrogent cette question et qui ont envie d'éveiller leurs contemporains sur est-ce que l'histoire des Juifs de Pologne n'est-elle pas l'histoire de la Pologne.
Igor Ostachowicz est resté quelques jours à Paris en se confrontant au public divers du mémorial de la Shoah aux librairies de la rive gauche. Le débat autour de son roman a toujours été animé et très riche. La mauvaise volonté des autorités polonaises n'a pas réussi à faire taire l'impertinent auteur, ni à enterrer son roman. Un roman à lire de toute urgence pour tenter de comprendre comment la Pologne d'aujourd'hui essaye de se mesurer à ses fantômes, malgré le silence des autorités.
C'était il y a 25 ans, tout juste, le siège de Dubrovnik en Croatie vient de commencer pendant 6 mois. Jusqu'au printemps 1992, la perle de l'Adriatique va vivre sous un déluge de bombes. 30 000 personnes doivent fuir, de nombreux bâtiments classés au patrimoine mondial de l'humanité seront détruits et depuis, ce crime n'a jamais été jugé. Simon Rico.
Coincé à l'extrême sud d'une langue de terre cernée par les montagnes de Bosnie-Herzégovine et du Monténégro, séparé du reste de la Croatie par l'enclave bosnienne de Neum et dépourvu de casernes militaires, Dubrovnik apparaissait comme une cible facile au moment où la guerre éclatait en Yougoslavie. Le 1er octobre 1991, des réservistes monténégrins de l'armée fédérale commencèrent à attaquer la ville balnéaire, connue pour sa vieille citadelle. Le siège de la perle de l'Adriatique allait durer jusqu'au 26 mai 1992 et faire une centaine de morts, 1500 blessés ainsi que près de 35 000 réfugiés. 300 églises et 500 monuments, dont de nombreux classés par l'UNESCO, furent également touchés par les bombardements quotidiens opérés depuis les hauteurs par les soldats monténégrins et serbes. Pour justifier cette attaque, la propagande fut intense. Selon les médias à la solde du président Milošević, il fallait éliminer les 30 000 oustachis qui y vivaient. Le camp serbe assimilait alors tous les Croates au régime pro-nazi qui avait administré la Croatie de 1941 à 1945. L'objectif était de créer une république de Dubrovnik qui aurait intégré la Grande Serbie pour laquelle se battait Milošević. Au Monténégro, cet épisode reste un traumatisme que le petit pays a bien du mal à dépasser. En 2000, le président Milo Djukanovic, aujourd'hui Premier ministre, avait publiquement présenté ses excuses au peuple croate et s'était engagé à juger ceux qui s'étaient rendus coupables de crimes de guerre. 16 ans plus tard, la justice monténégrine n'a ouvert aucune enquête. Il faut dire que Milo Djukanovic, arrivé au pouvoir grâce à Slobodan Milošević, pourrait être inquiété. Alors, pour se dédouaner, les autorités de Podgorica clament que toutes les décisions étaient prises par Belgrade. En attendant, Dubrovnik a pansé ses plaies, mais n'a pas oublié ses blessures.
Money, they say, is as evil as Satan, and probably worse.
Tis.
A dreadful and wonderful curse.
Tis.
A pleasure to have in my purse.
It is.
Money is the
most beautiful word.
Et oui, de l'argent, on va en parler. Cette fois, c'est acté. Normalement, un décret revoit à la baisse les privilèges accordés aux anciens présidents de la République française. En septembre dernier, le site Mediapart avait révélé le contenu d'un rapport qui estimait à plus de 10 millions d'euros le coût annuel pour les contribuables de l'entretien des trois ex-chefs d'État. Alors évidemment, la France se distingue une fois de plus par rapport à ses principaux voisins européens. Avec nous pour en parler, Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors pour commencer, peut-on dire que les conditions faites aux ex-présidents sont enfin normalisées ?
Ce serait très exagéré de le prétendre. Le décret publié le 5 octobre ne modifie ni la retraite des ex-présidents, 65 000 euros bruts par an, ni le fait qu'il dispose à vie d'un appartement de fonction, d'une voiture avec chauffeur et d'une protection policière adaptée. Seuls deux points sont modifiés. D'une part, les 7 collaborateurs et 2 agents de service dont il dispose actuellement seront ramenés à 3 plus 1 au bout de 5 ans, après la fin de leur fonction, et dans 5 ans pour les 3 anciens présidents actuels. D'autre part, la prise en charge par l'État de leurs frais de représentation et de déplacement ne concernera plus que des activités liées à leur ancienne fonction. C'est bien le moins que l'on pouvait faire. On estime que ces mesures devraient à terme permettre d'économiser environ 3 millions d'euros sur les 10,3 millions actuellement dépensés.
Alors je suppose que le traitement des ex-présidents n'a pas d'équivalent chez nos voisins.
Je vais vous étonner Catherine, mais dans 2 pays, les anciens chefs de l'État bénéficient d'un traitement presque comparable alors que leur fonction présidentielle ne se voit accorder que des pouvoirs constitutionnels très réduits. En Italie, tout d'abord, l'ancien président Giorgio Napolitano, c'est le seul encore en vie, ne bénéficie pas d'une retraite de président, mais c'est beaucoup mieux puisqu'il est devenu automatiquement sénateur à vie et bénéficie à ce titre d'une rémunération de 15 000 euros net mensuels, beaucoup plus donc que nos ex-présidents, et d'un bureau au Sénat. Il peut compter en outre sur un secrétariat de 10 personnes, le service d'un majordome, plusieurs lignes téléphoniques à sa disposition et un service de sécurité d'une 30aine d'agents. Le président du conseil, vrai chef de l'exécutif en Italie, est beaucoup moins bien traité puisqu'il ne dispose que de sa retraite parlementaire à 65 ans. Avant cet âge, il a tout loisir de redevenir député ou sénateur, de travailler dans le privé ou encore de toucher d'autres retraites. La presse dénonce ainsi les revenus de Mario Monti qui cumule ses généreuses retraites de commissaire européen, 9 000 euros mensuels quand même, et de professeur d'université, ainsi que son indemnité de sénateur à vie.
Alors vous parliez d'un autre président bien doté.
Oui, c'est le président fédéral d'Allemagne. Celui qui, rappelons-le, peut quand même dissoudre le Bundestag dans certains cas, touche un traitement à vie de 214 000 euros par an et dispose d'un bureau et d'une voiture avec chauffeur. Mais du fait d'une protection policière réduite et de frais de représentation nuls, il coûte quand même près de 10 fois moins cher qu'un président français. Comme en France, les ex-présidents allemands ne sont plus que 3. Quant aux 2 anciens chanceliers allemands, ils sont à peine mieux traités que les premiers ministres français, disposant pendant 3 mois de leur traitement de 24 000 euros, divisé par 2 les 3 mois suivants. De quoi inciter à se reconvertir dans le privé, comme Gerhard Schröder, qui a multiplié des fonctions de conseil, notamment à la banque Rothschild, et qui est actuellement président de Nord Stream AG, maître d'œuvre du nouveau projet très controversé de gazoduc piloté par le russe Gazprom. Une reconversion qui est très critiquée outre-Rhin.
Les premiers ministres britanniques, Daniel, coûtent-ils cher aussi ?
Oui, notamment parce qu'ils disposent d'une enveloppe annuelle de 130 000 euros pour leurs frais de représentation et d'une importante protection policière. Il y a 2 ans, Tony Blair, dont la fortune est évaluée à 60 millions de livres sterling, coûtait près de 300 000 euros par an aux contribuables, bien qu'il ait renoncé aux 80 000 euros annuels de sa pension d'ancien Premier ministre. Il faut dire qu'il multiplie les conférences grassement rémunérées et dirige de multiples fondations. Quant au jeune retraité David Cameron, il a lui aussi renoncé à sa pension ainsi qu'à son mandat de député et sa situation patrimoniale lui permet d'envisager sereinement d'attendre l'âge de 65 ans pour toucher une pension ministérielle. En conclusion, les anciens présidents français restent très privilégiés même si leurs homologues sont en général bien traités. Ce qui demeure problématique, c'est lorsque nos ex-présidents gagnent également, à l'instar de Nicolas Sarkozy, beaucoup d'argent dans le privé.
Merci Daniel, à la semaine prochaine.
À bientôt Catherine.
Avant d'être égorgés, les chevaux ont le crâne fracassé par un pistolet à tige perforante.
Pour éviter le cannibalisme à l'intérieur de ces cages surpeuplées, une partie du bec des poules a été amputée sans anesthésie quand elles n'étaient encore que des poussins.
Animaux égorgés à vif, suspendus vivants, l'enfer de l'abattage révélé par les vidéochocs dont on entend quelques extraits de l'association L214 a provoqué un véritable scandale en France et une prise de conscience. Une commission d'enquête parlementaire demande désormais des caméras pour surveiller les abattoirs et mettre fin aux mauvais traitements. L'association L214 va plus loin aujourd'hui. Dans un pays où la culture de la bonne chair est souvent associée à la consommation de viande, elle prône carrément le végétarisme.
Je suis Rémi Gaillard, je vous parle au nom de l'association L214 qui fait des vidéos quand même vachement moins drôles que les miennes. Les images qui vont suivre dévoilent encore une fois la cruauté des hommes envers les animaux.
D'habitude, Rémi Gaillard amuse plutôt la galerie avec des pitreries souvent potaches diffusées sur Internet. Mais le récit qui accompagne les images de L214, tourné en caméra cachée dans plusieurs abattoirs, est glaçant.
À l'abattoir de Pézenas, on tue des moutons sans les étourdir. L'employé n'immobilise pas les moutons comme l'exige la réglementation, mais les suspend totalement conscients sur la chaîne. La souffrance des moutons est extrême.
3 millions d'animaux sont tués chaque jour en France, parfois dans des conditions atroces. Pour Brigitte Gauthier, l'une des porte-paroles de L214, seules de telles images pouvaient marquer les consciences.
Ces images ont secoué l'opinion publique. Bien sûr, tout le monde sait que pour obtenir de la viande, on tue des animaux. Mais personne n'imaginait dans quelles conditions ça se déroulait. C'est une chose de savoir qu'on tue les animaux, c'est encore une autre chose de réaliser qu'on les tue. Et les images, justement, ont apporté cette dimension où on peut se rendre compte de la souffrance que ça implique pour les animaux, de la panique qu'ils ressentent, de l'agonie qui dure pour ces animaux. Et voilà, ce sont des choses qui sont cachées, hein. C'est pas des choses qui passent à la télé, c'est pas l'industrie agroalimentaire qui va nous montrer de quelle façon les animaux sont tués.
Depuis des années, L214 a souvent perdu en justice face aux industriels de l'agroalimentaire. L'association sent le vent tourner depuis quelques mois. Les magistrats portent une attention plus grande à la souffrance animale. Peut-être parce que, comme dans le code pénal et rural, depuis février dernier, le code civil reconnaît à son tour que les animaux sont doués de sensibilité. De fait, les images diffusées au printemps dernier par l'association ont conduit à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et à la fermeture provisoire ou définitive des abattoirs incriminés.
On se dit, les abattoirs, ils ont réouvert, ça n'a rien changé. Ça a quand même changé à la marge le fait que, au minimum, on peut espérer que maintenant, dans ces établissements, la réglementation est respectée. Ce qui ne fait pas que les animaux sont tués sans souffrance, mais au moins, il y a un certain nombre de souffrances en plus qui ont été éliminées. C'est toujours ça de gagner.
Autre souffrance que dénonce L214, celle vécue par les poules dans certains élevages. Là encore, une campagne choc de l'association, parrainée par l'auteur Ingrid Desjours.
À l'intérieur, les cages s'empilent à perte de vue. Les poules y sont enfermées pour leur vie entière. Jamais elles ne verront la lumière du jour. Leur espace de vie est extrêmement réduit. Une dizaine de poules par cage, à peu près l'équivalent d'une feuille A4 par poule.
Devant la justice, L214 a obtenu la fermeture de certains élevages. La grande distribution ne reste plus insensible désormais à l'origine des produits proposés dans leurs rayons. Exemple avec une enseigne longtemps sur la liste noire de L214, Karine Vielle est en charge du développement durable à Monoprix.
Depuis avril de cette année, on a décidé d'arrêter complètement de commercialiser des œufs issus de poules élevées en cage, que ce soit à marque Monoprix ou à marque nationale. Vous n'aurez plus que des œufs, soit bio, soit label rouge, soit plein air, soit de poules élevées au sol, mais plus issus de poules élevées en cage.
En quoi le travail d'associations comme L214 a pu influencer votre décision ?
En fait, L214, ils sont très efficaces parce qu'ils nous ont interpellés de façon assez vigoureuse, hein, avec des films, avec des courriers, avec du happening dans nos magasins, des gens déguisés en poules, etc., qui ont un peu créé l'animation. Donc c'est bien, c'est des électrochocs. Et je pense, il y a 3-4 ans, qu'ils étaient peut-être vus un peu comme des hurluberlus, mais ils sont de plus en plus écoutés. On travaille aussi avec d'autres ONG sur cette thématique, hein, telle le CIWF, qui est une ONG anglaise. Contrairement à L214, qui est plutôt très militant, eux, ils sont plus dans l'accompagnement des industriels ou des distributeurs. Ils nous aident à écrire des cahiers des charges. Ils nous sensibilisent aux enjeux de toute façon plus techniques. Donc c'est bien. Il y a ceux qui vous fouettent un peu et qui vous donnent envie de bouger. Et puis ceux qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous expliquent comment faire pour s'améliorer.
La filière agroalimentaire se transforme peu à peu, la loi aussi, mais pas assez vite au goût de l'association. Malgré les avancées législatives, le changement reste trop timide en France, selon L214.
Maintenant, il est temps d'agir. Il faut que dans les écoles, dans les selfs, dans les restaurants, on puisse enfin avoir le choix de manger végétarien ou vegan. Et personnellement, je me dis que c'est quand même dommage pour les animaux de cohabiter avec 7 milliards de cons. Là encore, j'en fais partie.
Françoise Grelot était à la réalisation d'Accent. Rendez-vous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook dans quelques instants. Maintenant, les infos.